Hélène Sandrani, nous nous retrouvons pour une deuxième partie dans laquelle nous allons aborder plus concrètement vos responsabilités et l'application de vos projets. Alors rappelons quand même qu'un département, ça a pour compétence, alors naturelle de par la loi, essentiellement les soins ou le prendre soin, je crois que c'est votre formule.
Les solidarités, très exactement.
Les solidarités, donc très très important. Combien ça représente d'employés d'un département comme l'Aude, par exemple ?
Environ 2500.
2500 en tout ?
Oui, répartis sur le territoire, hein, bien sûr. Hein, ce qui correspond aussi à notre volonté de proximité. Hein. On va très loin dans les territoires très éloignés.
Oui, il y a des racines.
Quoi, c'est ça. Oui. Vous disiez tout à l'heure implantés. Oui, nous sommes implantés. Oui. Hein, nous
avons et le siège, alors, qui est à Carcassonne, le siège départemental, combien il y a de personnes ?
Je pense qu'en répartition, on doit avoir à peu près un quart de nos effectifs sur le siège. Et le reste à l'extérieur.
Le reste disséminé sur le département.
Sur le département.
Mmh. Oui, ouais. Important à savoir.
Oui.
Et quels sont les types de personnels qui sont les plus disséminés au contact du public ? C'est le social, tous ceux qui sont...
Pas que. Ce sont évidemment nos travailleurs sociaux, avec les maisons des solidarités et nos antennes. On a les collèges. On a 28 collèges dans tout le territoire, Cuisa, Chalabre, et là il y a les agents d'entretien sont des agents territoriaux, et bien sûr les routes. On a des centres routiers dans tout le département. On couvre la totalité.
Puisque c'est une des compétences.
C'est une de nos compétences. On couvre la totalité du territoire. Donc vraiment, notre volonté d'aller au plus près avec des services de proximité s'illustre de cette façon-là.
Mmh. Un mot aussi pour éclairer l'auditeur. Quelles sont les recettes d'un département ? D'où provient l'argent ?
Essentiellement de dotations de l'État. Hein. On a perdu, vous le savez, un impôt, dont on avait le monopole qui était la taxe foncière, hein, sur lequel on pouvait, enfin pas le monopole, mais du moins sur lequel on avait la possibilité.
Vous aviez levier, en quelque sorte.
Voilà, on avait la possibilité de lever l'impôt à travers cette taxe. Cette taxe nous a été enlevée. Pour la donner aux mairies, puisqu'on leur a enlevé la taxe d'habitation.
Oui, vous voyez le truc,
hein. Voilà, vous voyez le truc. Bon, alors après, au-delà du fait que nous, on a très mal vécu ça, parce que c'est nous enlever l'autonomie de gestion qui est prévue par la Constitution. C'est-à-dire que le département, pour mener ses politiques, entre guillemets, a le droit de lever l'impôt, même s'il ne le fait pas, parce qu'on connaît le rapport de l'usager avec l'impôt. Mais il n'empêche que lever l'impôt est un des leviers de mise en œuvre des politiques.
Et du pouvoir, tout simplement.
Or, l'État nous a contraints et réduits, là.
Hein, donc, voulant
nous rendre plus dépendants des dotations de l'État. Mmh. Et une dotation, ça se décide une année, ça se modifie l'année d'après. Oui. Vous voyez ?
Et puis ça se décide...
Et ça se décide là-haut, pas en bas. Bon, bref, je ne vais pas refaire le débat, mais enfin, bon, vous comprenez pourquoi nous n'avons pas vécu cette mesure de façon très positive. Et après, on a, je vais vous donner une illustration, quelque chose, par exemple, qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux, qui sont... un pourcentage que l'on a sur les mouvements qui se font chez les notaires.
C'est les frais de notaire, qu'on appelle familièrement les frais de notaire quelque chose.
Voilà, et dont nous percevons un pourcentage. Et là, c'est vrai que cette année, on avait beaucoup de craintes sur le budget en lien avec la crise. Bon, on a quand même des droits de mutation qui sont corrects, hein, et qui sont liés effectivement à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire cet exode urbain et tous ces urbains qui viennent acheter... dans le rural des maisons, et du coup on a une petite recette supplémentaire qui est liée à ces droits de mutation.
Alors, par ce phénomène, donc ça a créé davantage de frais notariaux.
C'est ça, et donc nous du coup un peu plus de un frémissement de recettes.
Voilà, mais ça n'est pas un droit, ça n'est pas un pouvoir de lever l'impôt.
Tout à
c'est
fait.
Dépendant d'une
c'est
situation.
C'est dépendant d'une situation.
Et alors, dans un département comme l'autre, ça fait un budget de combien environ ?
Nous, on a un budget global, c'est-à-dire fonctionnement et investissement, qui est pas loin de 700 millions. On a un budget de fonctionnement qui est de 500 millions. Et puis après,
il reste 200 millions pour l'investissement.
Oui, non, on met pas 200 millions à l'investissement. Bon, bon, mais réellement en investissement, on a un budget de 90 millions à peu près, ce qui est beaucoup, hein, beaucoup
en investissement.
En investissement pour un département de notre taille. Mais c'est une volonté politique, ça aussi, parce que l'investissement, c'est du travail pour les Audois et les Audoises. Oui. C'est du travail pour les entreprises.
C'est l'économie.
C'est l'économie. Hein. Et effectivement, on ne mesure jamais assez la part que nous prenons à ces investissements au niveau territorial. Mmh. Nous sommes un des leviers de l'économie locale.
Bon. Oui, on s'aperçoit que les départements, au-delà des compétences obligatoires, légales, touchent à beaucoup de domaines, plus qu'on pourrait imaginer peut-être.
Ah oui, parce que bon, c'est vrai que quand on pense département, on pense solidarité.
Hein, essentiellement, mais essentiellement, vous allez bien au-delà.
On va bien au-delà, on va bien au-delà. Hein. Bon, vous le savez, classiquement, on a l'éducation, on a les collèges, on a les routes, on a le tourisme, on a les grands travaux, projets, puisqu'on participe au Canal du Midi, on participe à la LGV, on participe au grand projet que constitue les châteaux Sentinelles, hein, et la cité de Carcassonne que l'on porte à l'UNESCO, sur le tourisme, sur les associations sportives et culturelles. Hein, on est très engagé sur le soutien aux associations sportives et culturelles.
Et alors, un petit détail concret, intéressant, vous avez inauguré tout récemment, Hélène Sandrani, un pont.
Oui, j'ai inauguré un pont.
Donc le département construit des ponts.
Ah ben bien sûr, on construit des ponts, puisque on va un peu rapidement, on dit les routes. Mais les routes et les ouvrages d'art.
Oui, elles franchissent des
rivières.
Oui,
les routes, elles franchissent des rivières, les routes. Et donc nous avons les ouvrages d'art. Et puis, vous évoquez un pont, hier j'étais à Salsigne, où j'ai inauguré effectivement le pont que nous avons reconstruit suite aux inondations
de
2018. Voilà, on arrive à la fin et maintenant il nous manque Ville-Gaillen
qui est le plus spectaculaire
que
tout le monde a vu médiatiquement.
Oui, parce que là ça va être quand même terrible. Et là ça commence à la fin de l'année.
Voilà. Bon, donc vous voyez le département.
Eh oui. Les ponts. Oui, bâti... nous sommes un acteur déterminant dans la reconstruction des inondations puisque bon, prioritairement évidemment, ce sont par le biais des routes. Hein. C'est les routes pour la dernière inondation, nous avons mis 20 millions.
Perdus à réinvestir.
Oui. Ouais. De dégâts.
On va dire.
Pour les routes, hein, exclusivement.
Oui. Hein. Uniquement pour, oui, bien sûr.
20 millions. Ouais.
Alors, parmi, donc, on l'a vu tout à l'heure, Hélène Sandrani, vous avez été élue en faisant équipe avec les Verts, avec des écologistes, ce qui implique que dans votre programme, l'écologie pèse peut-être un petit peu plus qu'auparavant.
Oh, disons que la situation.
Oui,
nous amène à le faire peser davantage et à y investir davantage. Hein. Nous avons un programme qui était fondé sur le prendre soin. C'est pour ça que tout à l'heure, vous évoquiez. Voilà, prendre soin des Audoises et des Audois par tout ce qui passe par nos politiques sociales et publiques. Hein. Je peux y revenir. Prendre soin de l'environnement. D'où notre politique envers l'urgence climatique, et prendre soin des territoires. Donc si je reviens au prendre soin des habitants, et sans revenir sur une liste de nos compétences, sur ce mandat-là, on va avoir une action très ciblée sur l'enfance, parce que nous avons la responsabilité de la protection de l'enfance.
Oui, de par la loi.
De par la loi. Donc nous allons aller plus loin. Nous allons y consacrer des moyens supplémentaires. Nous allons reconstruire des bâtiments où sont accueillis des enfants aujourd'hui. Nous relançons un plan de recrutement d'assistants familiaux de 100 sur 3 ans. D'ailleurs, à ce propos, je fais un appel. Hein, si des personnes se sentent intéressées pour ce métier beau mais difficile qui consiste à accueillir des enfants qui nous sont confiés, qui n'hésitent pas à le faire savoir au département.
Donc on manque de ce personnel.
Oui, on manque d'assistants familiaux. Donc nous avons un plan ambitieux pour la protection de l'enfance. Vous savez, je vous l'avais dit, je crois, la dernière fois, on a des taux de fragilité dans l'Aude concernant les enfants qui sont supérieures aux moyennes régionales et nationales.
Oui, justement, est-ce que ça s'explique, ça?
Ben oui, ça s'explique par la fragilité, un taux de fragilité d'un enfant, c'est une convergence de facteurs.
Oui, il y a la famille, forcément.
Bien sûr qu'il y a la famille. Il y a, par exemple, on cumulait les facteurs. Ce n'est pas un facteur pris isolément, mais c'est le cumul de plusieurs facteurs qui va donner un indice de fragilité. Ces facteurs, c'est la famille. Est-ce une famille monoparentale ou pas? Ces facteurs, c'est y a-t-il plus de 3 enfants? Ces facteurs, c'est dans cette famille, est-ce qu'il y a 2 adultes qui travaillent ou il y a un adulte qui travaille ou il n'y a aucun adulte qui travaille. Dans cette famille, vit-on dans un logement social dans le parc locatif ou est-on propriétaire? Dans cette famille, vit-on dans un logement surpeuplé ou pas? Et c'est tout ça qui ajouté dit le taux de fragilité, de vulnérabilité. Voilà. Et dans l'Aude, effectivement, nous avons un taux de vulnérabilité important. Donc il faut vraiment, pour moi c'est un enjeu majeur de ce mandat, il faut vraiment que nous montions d'un cran dans cette politique. Ça va passer par effectivement un peu plus de puéricultrice, un peu plus de sage-femme, ça va passer par des réhabilitations de bâtiments dans lesquels on accueille ces enfants, et comme je l'ai dit, par des recrutements.
Et alors justement, le département en arrive à se mêler, si je puis dire, de formation, ce qui n'est pas sa vocation habituelle.
Oui, là vous évoquez autre chose. Nous avons la compétence maintien à domicile des personnes âgées. Là aussi, c'est dans notre prendre soin. On va mettre en œuvre d'autres dispositifs pour pouvoir maintenir la personne âgée à domicile, notamment des expériences qui vont être menées sur ce qu'on appelle l'EHPAD hors les murs. C'est-à-dire comment on apporte un soutien un peu plus médicalisé, même en restant à la maison, par rapport aux EHPAD. Ça existe pour l'hôpital, mais là, ça concernerait les EHPAD.
Ce qui est une nouvelle façon de voir les choses, finalement.
Oui, mais nous, la politique de maintien à domicile, elle est affirmée depuis plusieurs années. Ce qu'on cherche, c'est à la développer au maximum. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, suite au Covid, suite à des conditions de travail qui ne sont pas toujours faciles, on a une pénurie d'assistants de vie. Et le maintien à domicile deviennent très difficiles, les services d'aide à domicile n'arrivent pas à trouver du personnel. Donc j'ai pris l'initiative, si vous voulez, nous allons, alors c'est la région qui a la compétence formation, mais nous allons activer les choses et nous allons mettre tout en œuvre pour que des formations d'auxiliaires de vie soient mises en œuvre de façon à ce qu'on puisse répondre à cette pénurie.
Oui, voilà, on voit par quel chemin détourner, finalement, vous êtes amené à vous occuper de formation.
Oui.
Alors, à propos d'écologie également, quelque chose qui est peut-être symbolique, mais qui me semble signifier quand même, à propos des routes, récemment, vous avez fait plusieurs tests d'utilisation d'un bitume qui serait plus ou moins écologiste. Enfin, expliquez-nous en deux mots.
Oui, oui. Alors, je vous disais tout à l'heure, dans notre programme, c'est le prendre soin des publics, j'ai cité les enfants, j'ai cité les personnes âgées, de l'environnement, vous venez de le dire. Notamment, nous étions déjà engagés dans une politique, on va dire, d'expérimentation, mais là, on est aussi très soutenu. Enfin, les entreprises se lancent, parce qu'elles aussi, elles ne peuvent pas négliger le fait écologique. Et donc, elles travaillent à de nouveaux procédés, à présenter des dispositifs qui permettent justement d'aider à être moins nocifs pour cet environnement. Et vous l'avez dit, ça concerne notamment soit ce qu'on appelle les enroulés, enfin le goudron à lui-même, le revêtement utilisé, les matières qu'on utilise pour ce revêtement, le recyclage. Je disais, là, nous venons de faire des travaux sur la rocade à la sortie de l'autoroute côté route de Perpignan.
À Narbonne, vous voulez
dire. À Narbonne, oui. Et donc, nous avons refait un tronçon sur 2 km. Et 40% des matériaux rejetés, issus du chantier, sont réutilisés sur ce même chantier. Donc, vous voyez, des progrès, il y en a, quoi. Et des procédés qui nous permettent de protéger l'environnement, ou du moins d'aller dans ce sens, il y en a. Et nous, on est très partant pour ce genre d'expérimentation.
On marque une deuxième pause, Hélène Sandrani. On se retrouve pour une troisième partie où on va évoquer d'autres aspects, mais peut-être restera-t-on encore quelques minutes sur l'écologie. À tout de suite. D'accord.